VOA Afrique, les infos. À Washington.
Monsieur Robin Dorsil qui vous remercie de votre fidélité. Dans moins de 10 minutes, notre magazine hebdomadaire Carrefour Science et Santé. Mais juste avant, voici un résumé des principales nouvelles du monde. République centrafricaine, au moins 7 personnes ont été tuées, des habitations et commerces incendiés, des barricades érigées sur plusieurs avenues. C'est le bilan des violences d'hier à aujourd'hui dans une partie de la capitale Bangui. Tout est parti de l'assassinat de 3 jeunes dans le quartier musulman du PK5, apparemment en représailles à l'attaque près de l'aéroport de Bangui qui aurait fait 3 morts au sein d'une délégation de l'UPC, un groupe armé du centre du pays. Le gouvernement centrafricain appelle au calme. Les précisions de notre correspondant à Bangui, Freeman Sipila.
Ce mardi matin, des mouvements de protestation ont éclaté dans le deuxième et une partie du premier arrondissement, occasionnant des heurts avec des forces de l'ordre de la MINUSCA. Un des manifestants appelle le gouvernement à prendre ses responsabilités.
Quand on nous dit qu'on ouvre les enquêtes et machin et tout, mais sincèrement, ces enquêtes-là, c'est pour quand? Je demande aux autorités de prendre leurs responsabilités.
Dénonçant cette nouvelle flambée de violence, le porte-parole du gouvernement, Dominique Saïd Paguindi, appelle la population au calme et à la retenue.
Le gouvernement condamne avec force cette violence inutile qui n'a pas d'autre but que d'instaurer la terreur et le chaos. Le gouvernement lance un appel au calme et à la retenue. L'érection des barricades n'est pas une solution.
Cette nouvelle tension a occasionné ce mardi la fermeture de plusieurs écoles, des établissements bancaires et de certains commerces. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Au Burundi, les affrontements entre forces de l'ordre et insurgés se poursuivent. Dans le centre du pays, fief du pouvoir, des heurts ont tué au moins 3 assaillants et un policier. C'est ce que rapporte l'AFP citant une source militaire. Une 50aine d'hommes armés auraient attaqué la commune de Nyabianga, provoquant des échanges avec la police. Il s'agit de la première attaque des insurgés dans cette région. Par ailleurs, dans la capitale Bujumbura, au moins 3 personnes ont été tuées et une 15aine blessées depuis hier. Au Congo-Brazzaville, les résultats officiels du référendum de dimanche ont été annoncés ce matin. Le oui l'a emporté à plus de 92% avec un taux de participation de plus de 72%. Cela a provoqué une levée de boucliers chez les opposants congolais. Idriss Fall.
Ces résultats sont nuls et de nul effet, d'après Guy Romain Kinfoussia, porte-parole du FRONCAD, une coalition de l'opposition qui entend continuer la désobéissance civile jusqu'au retrait du projet. C'est le même son de cloche pour une autre coalition d'opposition, l'Initiative pour la démocratie au Congo, mise en place en août par des dissidents et anciens alliés du président Sassou Nguesso. D'ailleurs, 2 de ses leaders, Guy Brice Parfait Kolela et André Okombi Salissa, sont assignés à résidence à Brazzaville. Se prononçant depuis Paris, Charles Zachary Bowayo, un transfuge du PCT, affirme que ces résultats vont à l'encontre de la réalité et de la vérité. Pour lui, il ne s'agissait pas de référendum, mais de coup d'État. Le Quai d'Orsay a dit prendre note des résultats annoncés ce matin. Avant ce scrutin, le président François Hollande avait exprimé son souhait que les constitutions soient respectées et que les consultations se tiennent dans des conditions de transparence incontestables.
Présidentielle en Tanzanie, les résultats commencent à tomber. Un premier décompte des voix dans environ 10% des circonscriptions indique que le candidat du parti au pouvoir, John Magufuli, devant ses adversaires. Les résultats définitifs sont attendus jeudi. Certains observateurs craignent que ce scrutin ne débouche sur des violences, notamment sur l'archipel semi-autonome de Zanzibar, où le principal parti d'opposition a revendiqué la victoire dès lundi. Les forces de sécurité ont encerclé le principal centre de décompte des bulletins de vote de l'archipel, empêchant la presse d'y entrer ou d'en sortir. Les Éthiopiens et les Somaliens continuent d'affluer au Yémen malgré les violences dans ce pays. Tel est le cri d'alarme du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, qui a enregistré 70 000 arrivées depuis janvier, dont plus de la moitié depuis fin mars. Toujours concernant l'exode depuis la Corne de l'Afrique, l'Érythrée est soupçonnée d'imposer une taxe à ses citoyens établis à l'étranger. Le procureur général suisse est en train d'examiner une plainte pénale de l'Office fédéral concernant cet impôt illicite.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Séisme en Asie du Sud, le bilan s'alourdit. On parle maintenant de plusieurs centaines de morts. Nathalie Barche.
Des enterrements collectifs ont été organisés dans les deux pays, rapporte l'AFP. certaines zones restent entièrement coupées du monde. En Afghanistan, les zones montagneuses sinistrées sont difficiles d'accès, comme le Badakhshan, qui est contrôlé par les talibans, compliquant les opérations de secours. Ces derniers se sont toutefois engagés à aider les sinistrés. Le Premier ministre pakistanais Nawaz Sharif, rentré aujourd'hui d'une visite aux États-Unis, a promis des compensations aux survivants du séisme au Pakistan. Nawaz Sharif s'est rendu dans la région de Shangla, probablement la plus touchée au Pakistan, avec au moins 49 morts. Dans le village de Gandao, presque toutes les maisons ont été endommagées. Le Croissant Rouge pakistanais, qui achemine des couvertures et autres équipements de base vers le nord-ouest du pays, peine à atteindre certaines zones enneigées. À Chitral, plus de 80 000 personnes n'ont plus accès à l'eau potable, selon les autorités locales.
Au Yémen, des frappes de la coalition menée par l'Arabie saoudite ont touché un hôpital de Médecins sans frontières à Sanaa, la capitale. Selon l'ONG, des patients et employés se trouvaient à l'intérieur du bâtiment, mais elle n'a fait état d'aucune victime. La coalition arabe a lancé une campagne mars au Yémen pour déloger les rebelles chiites houthis et contraint à l'exil le gouvernement du président Mansour Hadi. Récemment, un hôpital de MSF à Kunduz, en Afghanistan, avait été attaqué par les forces américaines. Bilan, 30 morts. Une enquête internationale est en cours. Un destroyer lance-missile américain s'est approché en mer de Chine méridionale, à 22 km d'un récif revendiqué par Pékin, qui a immédiatement protesté. Lionel Gaïma.
Selon une source militaire américaine, la mission de USS Lassen s'est terminée sans incident et la Chine a dit avoir mené une surveillance du navire, l'a suivi, puis lui a lancé un avertissement. Le récif de Subi fait partie de l'archipel de Spratlys, qui est aussi revendiqué par Taïwan, le Vietnam et les Philippines. Ici à Washington, un porte-parole du Pentagone a précisé que le destroyer effectuait une mission de routine en mer de Chine méridionale conformément au droit international et que sa présence dans le secteur n'avait rien à voir avec la question de souveraineté sur ces îles. Mais le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Liu Kang, soutient que le USS Lassen est entré illégalement dans des eaux territoriales chinoises et que cet incident constituait une menace à la souveraineté chinoise.
En Pologne, pour la première fois depuis la chute du régime communiste en 1989, un parti aura la majorité absolue à la Chambre basse. Le Parti conservateur Droit et Justice a remporté 235 sièges sur 460 lors des législatives du dimanche 25 octobre, a annoncé aujourd'hui la Commission électorale nationale polonaise. Déjà, en mai dernier, le parti avait conquis la présidence. À cause de dissensions internes, la gauche ne sera pas représentée au nouveau Parlement. Le taux de participation avoisinait les 51%. Politique américaine. Pour la première fois, le neurochirurgien Ben Carson devance chez les Républicains le milliardaire Donald Trump à l'échelle nationale. Dans un sondage New York Times, CBS News, publié ce mardi, le seul candidat noir à la Maison-Blanche pour 2016 est crédité de 26% des intentions de vote parmi les électeurs républicains. Trump obtient 22%. Dans l'Iowa, où se tiendra la première élection primaire en février, Ben Carson mène par 9%. 10 candidats, il faut le rappeler, briguent l'investiture du Parti républicain. Ces candidats s'affronteront demain soir dans un nouveau débat télévisé. Toujours aux États-Unis, la Maison-Blanche et le Congrès, dominés par les Républicains, se sont mis d'accord en principe sur un accord concernant le budget national. Le plan financerait le gouvernement fédéral jusqu'en mars 2017, soit 2 mois après le départ de Barack Obama. Alors que les tout premiers résultats de la présidentielle commencent à tomber en Côte d'Ivoire, les différentes délégations d'observateurs font leur rapport après la société civile qui a déclaré que le scrutin du dimanche était apaisé avec une participation de 53% contre les 60% annoncés par la CEI. L'Union africaine a aussi fait son bilan. Selon Joséphine Charlotte Mayuma-Kala, représentante spéciale de la présidente de la Commission de l'Union africaine en Côte d'Ivoire, le scrutin était en général apaisé. Voilà pour les nouvelles. Ici chez Ruben Orsil.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Et tout de suite.